Chapitre 3. Durant les scènes que nous avons essayé de décrire dans le chapitre précédent, Stein flânait autour de ses villes en suivant la ligne de ses antiques murailles élevées par Jules César, comme l'atteste l'inscription suivante placée sur la porte de Gérès. Hercule m'a bâti, Jules César m'a entouré de murs et de tours élevées, et le Saint-Roi m'a conquise avec Garci Pérez de Vargas. En tournant vers la droite, Stein passa par devant le couvent del Populo, transformé aujourd'hui en prison. Il vit près de là la belle porte de Triane. Plus loin, la porte royale par laquelle fit son entrée Saint-Ferdinand et, dans les siècles postérieurs, Philippe II. Au-devant se trouve le couvent de San Laureano, où Fernando Colomb, fils de l'immortel Christophe, fonda une école et établit son observatoire. Il passa ensuite devant la porte de San Juan et celle de la Barqueta, à laquelle se rattachent tant de souvenirs. À une certaine distance et sur les bords du fleuve, il aperçut le somptueux monastère de San Geronimo, dont la statue, qu'on regarde comme la plus parfaite qui soit jamais sortie des mains d'un artiste, orne aujourd'hui le principal salon du musée. Stein fit alors cette réflexion. Les anciens artistes auraient-ils fait tant de chefs-d'œuvre si, au lieu de les destiner à la vénération des âmes pieuses qui leur adressaient leur culte et leurs prières, ils avaient su qu'ils devaient plus tard appartenir à un musée où ils seraient exposés à la froide analyse des amis des arts et des admirateurs de la forme? Il vit ensuite San Lazzaro, hôpital des lépreux, et l'immense et magnifique hospice de las Cinco Llagas del Señor, les cinq plaies de notre Seigneur, vulgairement appelé hôpital de la Sangre, œuvre admirable des Henriquez des Rivères, dans laquelle ils ont dépensé des millions et que, dans leur charité et leur zèle pour le bien public, plus grands encore que leur œuvre, ils ont passé sous le patronage de celui qui l'achèverait. Il vit la porte de la Macarena, qui prend son nom, suivant les uns, de celui d'une fille d'Hercule à qui Jules César la dédia, suivant les autres, d'une princesse maure qui eut un palais à cet endroit. Don Pedro le Cruel entra bien des fois en vainqueur par cette porte, qui vit passer aussi Don Fadrique, quand le même Don Pedro, son frère, le sacrifia à son ressentiment. Stein passa ensuite devant la porte de Cordoba, au-dessus de laquelle on voit encore, convertis en chapelle, les trois réduits où fut emprisonné et martyrisé San Emegenildo, par ordre de son père Léo Vigildo, roi des Goths, vers 586. En face de la porte se trouve le couvent des Capucins, sur la même place qu'occupait, dit-on, la première église qu'il y eut en Espagne, fondée par l'apôtre Saint-Jacques, bien que Saragosse dispute cet honneur à Séville. Il vit plus loin le couvent de la Trinidad, situé sur le terrain qu'occupèrent jadis les prisons romaines, et le souterrain dans lequel furent renfermées les Saintes Vierges, Justa et Rufina, patronnes de la ville. On a élevé un autel dans ce souterrain, au centre duquel se conserve un pilier de marbre, auquel furent attachées les saintes, qui, avec leurs faibles doigts, y gravèrent une croix qu'on aperçoit encore. Après les portes del Sol et del Osario, il trouva celle de Carmona, la plus belle de l'enceinte, d'où part, en suivant une ligne parallèle à l'aqueduc qui amène l'eau à Séville, la route royale qui traverse toute la péninsule dans sa longueur en grimpant comme une chèvre à travers les pentes escarpées de Despenaperros. Une anecdote se rattache à cette porte et elle peint parfaitement le caractère des nobles habitants de Séville de cette époque. C'était en 1540. La milice de Séville sortait par cette porte pour aller au secours de Gibraltar. Don Rodrigo de Saavedra portait la bannière de la ville. Mais la porte d'alors était si basse que l'étendard ne pouvait passer sans s'incliner. Don Rodrigo passa par-dessus la porte en le tirant après lui avec des cordes, préférant ce désagrément à l'humiliation de son noble dépôt. À la main gauche se trouvent les grands et gais faubourgs de San Roque et de San Bernardo avec le jardin du roi, appelé ainsi parce qu'il a appartenu à un roi maure nommé Benjora. Stein arriva à la porte de la Carne, près de laquelle est situé le beau quartier de cavalerie. Laissant à main droite l'élégante porte de San Fernando, bâtie en 1760, en même temps que la magnifique fabrique de tabac qui y touche et dont la construction coûta 37 millions de réaux, il laissa ensuite à main gauche le cimetière, ce gouffre que la mort s'occupe incessamment à remplir, comme les Danaïdes leurs tonneaux. Puis il arriva à ces belles promenades qui, comme des bouquets, ornent la cité et les bords fleuris du Guadalquivir. Le seul bruit qui troublait en ce moment le silence de la belle promenade de Las Delicias était le chant des oiseaux saluant le soleil à son déclin. L'immobilité du fleuve était telle qu'on aurait pu le croire gelé si sa surface polie n'eût été ridée de temps en temps par l'aile d'un oiseau ou le saut de quelque poisson folâtre. Sur le bord opposé s'élevait le couvent de Los Remedios avec sa couronne de cyprès qui élevait avec orgueil leur dôme de verdure. Les ombres du crépuscule commençaient à couvrir la cité, tandis que la belle et gigantesque statue de bronze doré, emblème de la foi qui domine le sommet de la Giralda, resplendissait au dernier rayon d'un soleil ardent, comme la gloire des grands hommes qui la placèrent là pour couronner l'immense basilique. En 1401, les chanoines en prirent la dépense à leur charge en s'assujettissant, eux et leurs successeurs, à vivre en commun pour appliquer tous leurs revenus à la construction de ce temple. Pas un seul ne manqua à cet engagement, fait unique peut-être dans l'histoire de l'art. Exemple admirable d'abnégation, d'enthousiasme religieux et d'intelligence artistique qui fut le digne complément du mémorable accord avec lequel ils résolurent d'élever le temple et que nous ne pouvons nous dispenser de rapporter ici. « Faisons, dirent-ils, une église si grande et si belle qu'elle n'est pas son égale dans le monde entier et que dans l'avenir, on nous regarde comme des fous. » À la droite de Stein s'élevait la tour ronde d'El Oro, nom qui lui est venu, selon quelques-uns, de ce que jadis, c'était dans cette tour que l'on déposait l'or qui venait d'Amérique. Mais du reste, cette origine est erronée, vu qu'elle portait déjà le même nom avant la découverte du Nouveau Monde. Il est plus probable qu'elle le doit au carreau de faïence jaune dont elle était revêtue et dont quelques-uns se sont encore conservés. Cette tour d'une si grande antiquité, fort antérieure à l'ère chrétienne, est mêlée à de nombreux souvenirs historiques. Placée là, au milieu des pavillons bariolés de vaisseaux, des nuages de fumée des bateaux à vapeur, des promenades créées d'hier et des fleurs nées d'aujourd'hui, avec ses assises comptant les siècles par dizaines, elle est comme la massue d'Hercule jetée au milieu des jouets d'enfants. Parmi ces souvenirs, il y en a un de bien mince importance, bien qu'historique, et qui nous a fait sourire plus d'une fois, ce qui n'arrive pas souvent quand on parcourt les annales du monde. D'autre part, il peint au naturel l'homme dont nous allons parler, le roi Dom Pedro, dont la mémoire est restée la plus populaire dans notre pays, après celle du saint roi Dom Fernando. Près de la tour d'El Oro, il y a un môle que firent élever les chanoines lors de la construction de la cathédrale pour faciliter le débarquement des matériaux nécessaires pour ce travail, et il recevait une redevance de tous ceux qui y débarquaient. Dom Pedro, à court d'argent, mit à titre d'emprunt forcé la main sur les fonds qui en provenaient. Il paraît que ce prince, fort jeune encore, avait une grande faiblesse de mémoire en matière de dette, puisque le chapitre songea à recourir à la justice pour réclamer le remboursement de cette avance. Mais où trouver un greffier assez hardi pour se présenter devant Dom Pedro avec une assignation en main? Il fallait pour cela un greffier valeureux comme le Cid ou Pélage, et dans le monde, il n'y en a guère de cette trempe. La curie prit ses mesures, et voici ce qu'elle imagina. Un jour que le roi se promenait à cheval auprès du môle en question, il vit s'approcher un bateau qui s'arrêta à une distance respectueuse de sa personne. Dans le bateau se trouvait une espèce de corbeau ou vilain oiseau noir de mauvais augure. Le roi demeura surpris à cette apparition, car les gens vêtus de noir, pour l'ordinaire, n'aiment pas plus Neptune que Mars. Mais son étonnement fut bien plus grand encore quand il entendit une voix aigre qui lui disait « Nous intimons à vous, Dom Pedro !» Il n'en put dire davantage, car le roi, les yeux étincelants de colère, tira son épée, éperonna son cheval et se précipita dans l'eau sans réfléchir à ce qu'il faisait. Songez de la terreur de l'oiseau noir. Il laissa choir ses papiers, saisit la rame et se mit hors d'atteinte. Il est à présumer que le peuple, aussi admirateur du courage téméraire qu'ennemi des formalités judiciaires, applaudit avec enthousiasme à cette action. Pour nous, qui aimons tout ce qui est grand, fût-ce même la colère d'un roi, nous avons rapporté cette anecdote parce que les oiseaux vraiment noirs, c'est-à-dire ceux dont la langue et la plume distillent le poison, se sont vengés depuis en usant de leurs armes ordinaires, l'audace et la calomnie. Ils ont calomnié l'infortune. Pauvre Don Pedro, peut-être a-t-il été méchant parce qu'il a été malheureux. Sa cruauté fut causée par l'exaspération, mais il avait un tact profond, un caractère énergique et un cœur qui savait aimer. Stein, la tête appuyée dans ses mains, récréait sa vue du magnifique spectacle qui se déroulait devant lui et respirait avec délice cette atmosphère pure et embaumée. De temps en temps, une clameur vive et profonde arrivait jusqu'à lui, l'arrachait à sa douce extase et affectait douloureusement son cœur. C'était les cris de la place des taureaux. « Mon Dieu !» se disait-il en faisant allusion à la guerre et au combat de taureaux. « Est-il possible qu'ils donnent à de pareils enfantillages les noms de gloire et de plaisir ?»